Alors, la commune libre d'Aligre souhaite se présenter. Donc, déjà, on la remercie pour nous accueillir et nous permettre de nous retrouver de façon conviviale aujourd'hui pour parler du système publicitaire.
Donc bonjour et puis bienvenue à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir l'ensemble des collectifs anti-pub à la commune libre d'Aligre. Donc petite rapide présentation de la commune libre d'Aligre. Donc la commune libre d'Aligre, c'est d'abord une association de quartier qui est née il y a assez longtemps, un peu après l'hiver 54. Elle a eu beaucoup de mutations. Elle est née en gros dans la bienfaisance aux pauvres. Et puis elle s'est beaucoup renouvelée suite au mouvement social de 95, à l'époque où le bâtiment qui est ici, qui s'appelait déjà la Maison des Ensembles, n'avait pas du tout cet aspect, mais était en fait un squat qui a beaucoup abrité et comment dire, nourri le mouvement social de 95. Suite à cela, la commune libre d'Aligre s'est donc pas mal développée. Les actions principales qu'elle menait et qu'elle mène toujours, tourne autour de la convivialité, avec le repas de quartier en particulier sur la place d'Aligre, où l'un des objectifs c'est finalement de proposer à tous les habitants du quartier d'occuper l'espace dans une action simplement conviviale où on partage le repas. Ensuite, on continue de mener des repas grâce à notre cuisine, qui sont vraiment l'un des points essentiels pour la convivialité. C'est-à-dire qu'on insiste pour toutes les animations qui ont lieu à la commune, pour que les organisateurs, ou des amis des organisateurs, ou je ne sais qui, fassent un repas qui permette d'allier en fait les aspects militants et d'autre part les aspects conviviaux. Il me semble extrêmement important finalement de bien allier l'un à l'autre. L'un des moments essentiels de la vie de la commune libre d'Aligre, c'est le troisième lundi du mois à 20h où il y a le comité d'animation. À ce moment-là, on ouvre la porte à tout le monde, enfin comme tout le temps, mais une fois de plus, dans le but de proposer à chacun de venir constituer le programme du mois. C'est-à-dire qu'on propose à chacun de dire, venez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous nous proposez comme action. Alors, surtout pas dans un esprit de prestataire de service, parce qu'effectivement, nous avons un vidéoprojecteur avec un écran, nous avons des enceintes, des projecteurs lumineux, nous avons un piano, des tables, des chaises, mais c'est surtout pas dans un esprit de prestation de service, mais surtout dans un espace de structuration des liens sociaux dans le quartier, entendu au sens extrêmement large, je dis parfois en cercle concentrique jusqu'à Vladivostok. Voilà, donc ça c'est un des points essentiels, le comité d'animation, on décide du programme le plus démocratiquement possible, et il va de soi, en accord avec tout ce que dit le nom de l'association et la référence historique qui va avec. La commune libre d'Aligre a aussi récupéré en 2002 un jardin associatif qui s'appelle l'Aligresse, un petit peu plus par là, vers la rue Crozatier, qui est donc là aussi un lieu de vie qui permet à chacun de partager autour simplement d'un peu d'ombre sous la pergola ou un peu de partager un peu de grattage de terre, de discussion à propos des semences et autres. Tout un établissement plein de liens avec plein d'autres choses. Un des liens forts qu'il y a entre le café associatif et le jardin associatif, c'est justement le compost qui permet de recycler les déchets. Ensuite, que vous dire d'autre? L'actualité immédiate de la commune libre d'Aligre, c'est le festival Cinéma Libre, qui est donc un festival de quartier construit, dont le programme est construit par les habitants du quartier. Chaque année, on invente un thème qui a varié au cours des années. Il y a eu par exemple la désobéissance, je sais plus, aide-moi Jean-Pierre. La mémoire. Enfin, et cette année, le thème, c'est rouler jeunesse, hommage aux jeunesses rebelles, en particulier en lien avec le printemps des peuples arabes. avec un programme extrêmement dense. Le programme, je vous l'ai ramené ici, vous en trouverez sur le comptoir qui est là. Ce festival est un moment vraiment important dans la vie de l'association, et même en soi, il est devenu un petit événement qui attire du monde, évidemment allié à tout un tas de repas préparés, souvent dans un esprit international. Donc ouais, c'est un festival extrêmement important. Les dates, c'est du 14 au du, combien 16 au 18 c'est le week-end 15, 16 et 17, 18 septembre. Voilà, du jeudi au dimanche. Et par ailleurs, nous avons besoin de jeunes gens ou pas jeunes gens, pleins de muscles pour monter le Baltringue. Le Baltringue, c'est le monument historique en bois qui nous sert de lieu fermé pour projeter les films sur le terrain de sport à côté. Donc si mardi 13, vous avez de l'énergie, on a besoin de tout plein de muscles. Enfin, dernière chose que je n'oublie pas de préciser, c'est que toutes les actions qui sont menées par la commune libre d'Aligre sont menées autant que possible dans un esprit attaché à l'autogestion, aussi bien pour le ménage que pour la constitution du programme, que pour le service, etc. Donc ça, c'est un point qui nous est essentiel. Et enfin, toute dernière chose, si vous voulez adhérer à la commune, vous serez les bienvenus. On a besoin aussi de soutien, on a besoin aussi d'aide. L'adhésion est à 5 euros avec le verre de bienvenue offert.
Ça donne envie d'adhérer. Alors, maintenant, on va poursuivre cette journée de débat sur la publicité, dans l'espace public notamment, avec, donc là, jusque... Enfin bon, pendant un petit moment, on va aborder le thème de la publicité et des nouvelles technologies, avec Antonin Moulard donc, et Geoffroy Adam. Geoffrey, pardon. Donc je vais vous laisser chacun vous présenter un petit peu.
Ok, Antonin Moulard, je suis membre du collectif des Déboulonneurs. Je suis également membre de l'association Internet sans frontières. Et je m'intéresse à toutes les questions qui touchent la publicité sur Internet et comment en fait les nouveaux publicitaires s'y prennent pour continuer leur travail de manipulation mentale.
Bonjour, donc moi je m'appelle Geoffrey Dorn, je suis designer indépendant. Et si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai fait une école d'art qui s'appelle l'ENSAD à Paris, dans laquelle j'ai fait mon projet diplôme sur le hacking citoyen et sur la façon dont il est possible de détourner les systèmes de surveillance de l'État au profit du citoyen de façon assez générale. On pourra en discuter.
Alors, maintenant, Geoffrey, tu vas nous répondre à la question « Faut-il hacker la ville pour se débarrasser de la pub ?»
Oui.
C'est une grande question.
Et la réponse est oui. Alors, faut-il hacker la ville ?
Ça veut dire quoi, hacker ?
Alors voilà, le hacking, c'est un terme qui est un peu à la mode en ce moment. On hack tout. Les origines du hacking, je vais pas remonter, sinon on va en avoir pour deux heures. Mais en quelques mots, le hacking... On a le sens informatique. Je pirate un site internet, je pirate un logiciel, je le hack en quelque sorte. Donc ça, c'est le terme informatique. Tu me corriges ou tu m'arrêtes. Et après, le terme hacking, en tout cas la façon dont moi je le vois en tant que designer, c'est le fait de détourner quelque chose de sa fonction première et de ce pourquoi il est conçu au départ pour en faire autre chose, donc pour son propre intérêt ou pour un intérêt collectif, ou aussi voire pour aller à l'encontre même de ce pourquoi il était conçu au départ. Par exemple, une caméra, comment est-ce qu'on peut retourner une caméra et faire en sorte qu'elle se filme elle-même, ou est-ce qu'il est possible de détourner une caméra, de hacker une caméra? Est-ce qu'il est possible de hacker la publicité? Et au sens large, est-ce qu'il est possible de hacker la ville pour, d'une part, se la réapproprier, parce que les espaces dans la cité, dans la ville, commencent à être de plus en plus fragmentés, territorialisés, et on a de plus en plus de rues, d'appartenance en tout cas à des quartiers qui sont fermés, qui sont peut-être un peu fragmentés. C'est pour ça que des lieux comme ici, je trouve ça assez extraordinaire. Donc je suis très content d'être ici aussi. Et donc, L'idée de hacker, c'est en fait de se poser la question des usages, de ce qu'on a autour de nous, de regarder ce qu'on a autour de nous, ce dont on dispose, ce dont le citoyen, quelle liberté il a encore. Et ensuite, c'est de réfléchir autrement, d'essayer de le voir d'une façon nouvelle, de se dire, voilà, est-ce qu'un banc qui est conçu exprès dans le métro pour qu'un SDF ne dorme pas dessus, parce qu'il y a des petits accoudoirs exprès entre chaque, donc il ne peut pas s'allonger sur le banc, et bien est-ce que ça on peut le détourner? Est-ce que je peux fabriquer un sac de couchage pour SDF qui va être rembourré et qui fera en sorte qu'il pourra dormir sur le banc, par exemple? Et donc ça prendra la forme, et donc ça évitera que les accoudoirs lui cassent le dos. Et donc tous ces systèmes-là, en fait, qui sont dans la ville, qui empêchent les gens de vivre au sein de la ville d'une façon, on va dire, un peu fondamentale, d'une façon collective, est-ce qu'il est possible de détourner tout ça? Je sais pas si tu veux... Oui, d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. D'ailleurs, on est interrompu par un petit camion fort sympathique. Lucas, oui.
Est-ce que le mot hacking est une fatalité?
Non.
Merci.
Bravo. Non, le hacking n'est pas une fatalité. On peut parler de détournement, on peut parler de réappropriation, on peut parler de plein de termes. C'est Tristan Nitto, la personne qui s'occupe de Mozilla Europe. Lui, il appelle ça la bidouillabilité. Le fait que quelque chose soit bidouillable. On puisse l'utiliser, le détourner, se le réapproprier. Donc ça, c'est le terme français, on va dire, pour le hacking, et qui évoque plus de choses que juste le hacking, en fait. Le fait que quelque chose soit bidouillable, je pense notamment, il y a des designers, des artistes allemands, qui, en tout cas, dans la ville, pour instaurer un peu le côté, le plaisir, en tout cas, de la convivialité de la ville, ils ont repéré toutes les bornes pour l'électricité, les bornes qui comptent les armoires électriques, etc., qui sont vides ou qui servent à rien, ou les endroits qui sont un peu morts comme ça, ils les ont ouverts, ils ont installé dedans des chaises pliables, des tables pliables, ils ont refermé, et puis comme ça, ils se ramènent avec du saucisson, un peu de bière, parce que c'est des Allemands, et puis ils s'installent, et puis dans la ville, tout à coup, ils déplient une grande table, et tout à coup, ils mangent, et ils referment. Et donc, l'espace urbain a été transformé, et a été réapproprié, en tout cas. Donc ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple aussi comme ça qui me vient en tête, c'est un artiste chinois aussi qui a décidé de... Parce qu'en Chine, il y a beaucoup de problèmes de logement dans les grosses villes, et donc lui il s'est dit, j'ai fabriqué mon propre habitat, donc on manque de logements en Chine dans certaines grosses villes, donc on a un peu comme à Paris, hein, voilà, des cages à poules et où tout le monde est très serré, pourtant on a des grandes avenues, des grands trottoirs, des grandes choses pour les rues commerçantes, pour les magasins de luxe, etc. Et il s'est dit, je vais prendre un trottoir qui est très large et je vais fabriquer un habitat. Et l'idée de cet habitat, pour pouvoir rester là longtemps, il l'a fondu dans le trottoir, donc il a construit une espèce de grande sphère, comme ça, qui fait quelques mètres de long. Sauf que dessus, il a mis des espèces de petits sacs de mousse sur lesquels on poussait des végétaux, de l'herbe, des plantes, etc. Tout à coup, c'est devenu comme une espèce de petite colline avec plein d'herbes. Et lui, il a une porte et puis il a pu installer comme ça son habitat sur la ville, dans sa propre ville à lui. Il a pu se la réapproprier et vivre à nouveau chez lui. Après, il y a d'autres exemples aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez d'autres exemples aussi à me citer. Est-ce que vous bidouillez la ville, vous? Oui.
Alors, est-ce que je bidouille la ville? Effectivement, est-ce qu'on peut considérer, je pense, que les actions des déboulonneurs, comme on agit déjà sur un élément qui est présent dans la ville, on va détourner son usage premier. C'est peut-être pas le meilleur exemple, c'est un exemple. Il y a un site internet qui est intéressant, peut-être vous êtes déjà tombé dessus, qui s'appelle ouvresa.tk. Et qui explique en fait comment ouvrir les sucettes JCDecaux. Donc les sucettes, c'est les panneaux là, comme ça. Et en fait, il explique comment fabriquer sa clé pour ouvrir les sucettes et remplacer les affiches. De manière très simple, le site est très bien fait. D'ailleurs, Geoffrey, tu en avais fait un article.
J'avais reçu comme ça, justement, un petit kit. Voilà. Et en gros, c'est, il faut juste aller chez Brico Dépôt et acheter une petite, voilà, une espèce de petit, comme une clé en fait, une espèce de petit embout qui se vend. Voilà, il faut juste le bon diamètre, un tuyau de PVC, et puis ça, enfin, après on emboîte les deux et après on peut ouvrir les panneaux JC Deco pour mettre d'autres affiches ou pour remplacer et donc bidouiller ça. Donc ça c'est un des exemples aussi qu'on a vu. Par rapport à ça, je sais pas si tu voulais intervenir aussi.
Moi j'avais une petite question, parce que là enfin, donc la question qu'on se pose c'est faut-il, c'est quoi le mot, bidouillabiler détourner voilà, des objets de la ville pour se débarrasser de la pub. Mm-hmm. Donc là, on est dans, enfin, on parle surtout des nouvelles technologies. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces nouvelles technologies de la pub que l'on peut, sur lesquelles on peut agir?
Une des dernières nouvelles technologies de la publicité qu'on retrouve dans la ville, c'est, vous l'avez tous vu, ces espèces d'écrans qu'on retrouve dans le métro qui présentent de la publicité sous forme vidéo, sous forme d'image sur un écran vidéo. Donc à l'origine, il faut savoir que ces grands écrans, il y a des petites caméras dessus. La CNIL, ça leur a pas trop plu, donc ces petites caméras, elles sont en théorie désactivées. Personnellement, j'ai pas pu vérifier encore, mais voilà.
C'est à nous que ça a pas plu.
Ah oui. Exactement. La CNIL a fait autorité avec plein de guillemets, parce que voilà, la CNIL a beaucoup de... Ils sont pas beaucoup. Et en fait, ces écrans, les petites caméras au-dessus de ces publicités interactives sont là pour filmer les visages. Donc il faut savoir qu'une caméra aujourd'hui est capable de repérer si c'est un homme, une femme, de pouvoir repérer aussi si la personne regarde la publicité. Donc là, l'intérêt, en tout cas leur intérêt à eux, c'est d'identifier qui regarde la publicité. Donc voilà, je passe devant ça, il y a un truc qui clignote, je le regarde, et je fais trois couloirs après, je vois le même écran, et l'écran se rappelle de moi, parce qu'il a enregistré mon visage, et donc il me ressort la même publicité. Éventuellement aussi, il peut envoyer des messages sur mon téléphone aussi. Ça aussi, c'était quelque chose qui avait été prévu par ces écrans. Et donc, d'être suivi par les plus forts, ouais. Et donc, justement, avec ces caméras, c'est de pouvoir enregistrer éventuellement les visages, les reconnaître, et d'afficher constamment de la publicité ciblée qui reviendrait éventuellement comme dans nos pires films de science-fiction qu'on a pu voir avec la publicité partout, quoi. T'as peut-être un mot là-dessus pour nous en parler?
Rapidement, donc Yann aussi, enfin, vas-y.
Bah, je crois que Yann, qui est derrière Yvan, c'est pour ça que je faisais des signes, voulait nous dire un petit mot sur justement cette nouvelle technologie de la publicité que sont les écrans ACL.
Alors, oui, je peux dire quelque chose rapidement. Je ne suis pas du tout spécialiste dans la technologie des écrans ACL, mais... voilà, merci Yvan. Donc, non, c'est peut-être pour décrire un peu la structure du dispositif. En fait, bon, il s'agit de matériel quand même lourd, hein, puisque en fait, chacun peut constater en se baladant dans le métro que déjà, ce sont des objets assez imposants qui ont une certaine masse. Donc, je pense que ça a été prévu dès la conception, hein, au niveau des attaques possibles qu'on pouvait imaginer. En tout cas, au moins en termes de détournement et de neutralisation partielle de ces dispositifs. Donc il y a un châssis très lourd en acier qui est souvent vissé, boulonné, goujonné au mur en béton armé, qui lui sert de support. Maintenant, on peut constater aussi que le support est non seulement vissé au mur, mais également à une partie de son assise qui s'établit au niveau du sol. Donc il est vraiment posé et dispose d'une assise vraiment très très solide. Ensuite, ce qu'on peut constater, c'est que quand on observe la maintenance de ces appareils par les gens spécialisés de chez Deco, en fait, on constate que ces dispositifs sont étanches. Il y a un coffre, en fait, donc dont le battant, en fait, est constitué de la paroi vitrée qu'on peut voir immédiatement sur ce dispositif. Donc ce premier battant s'ouvre. Et en fait, derrière ce battant, il y a la dalle, ce qu'on appelle la dalle à cristaux liquides, hein, donc qui est également montée sur des gonds, en fait. Donc on ouvre le battant, ensuite on peut ouvrir l'écran, Et cet écran derrière lui, en fait, dispose de... Il y a toute la partie composant électronique qui est derrière et donc qui doit être refroidie par des petits ventilateurs qui sont disposés en partie basse et en partie haute. Donc ces petits ventilateurs sont connectés directement à des fenêtres derrière et qui prennent de l'air frais, de l'air neuf pour renouveler l'air et donc refroidir le dispositif. Donc en fait, on constate qu'il y a des joints en caoutchouc sur la paroi vitrée, donc qui rend complètement étanche la dalle elle-même. Et derrière la partie mobile de l'écran, on constate qu'il y a encore des caoutchoucs qui rendent également étanche la partie qui se trouve donc derrière le dispositif, donc qui est en contact avec la lame d'air qui sert au refroidissement du dispositif. Et les petits ventilateurs qui refroidissent le dispositif sont eux-mêmes ont eux-mêmes des joints en caoutchouc qui viennent vraiment se coupler parfaitement aux fenêtres prévues à l'effet du refroidissement, qui sont prévues pour ça. Donc en fait, c'est un dispositif qui est parfaitement étanche. Donc finalement, la seule chose qui peut rentrer dans un écran ACL, c'est de l'air pour son refroidissement. Donc ce serait dans une idée de dégradation ou d'altération du dispositif, le seul moyen d'interagir avec le dispositif, donc faire rentrer quelque chose par le biais de l'air ou en tout cas gêner le processus de refroidissement en faisant pénétrer alors là je m'avance un petit peu, mais c'est des idées qu'on peut avoir, bien sûr que je ne recommande pas du tout, hein, et qui sont de ma part complètement qui sont bien sûr contre-indiquées et passibles de poursuites. Mais bon, voilà, donc ça laisse quand même songeur sur les investissements qui sont mis en œuvre par les publicitaires pour arriver à placer dans l'espace public quelque chose qui est intrusif, qui nous pollue toute la journée. Et donc, on peut constater quand même que cet effort qui est déployé pour rendre le dispositif difficilement attaquable, pour le blinder, ça laisse aussi présager le peu de confiance en eux qu'ont les publicitaires, en fait, dans le déploiement de ce genre de dispositif dans l'espace public. Ils voient bien que quand même il y a quelque chose qui dérange profondément, donc qui est lié à l'envahissement publicitaire. Donc ils se sentent obligés, bien sûr, de renforcer ces dispositifs et de les rendre inattaquables. C'est vraiment une course à l'inviolabilité de ces dispositifs. Bon, parce qu'en fait, bon, on a le bon vieux panneau 4x3 qu'on peut attaquer facilement par diverses moyens. Et là, effectivement, sur ce type d'investissement, il faut quand même garantir la pérennité du dispositif, parce que là, on est sur des changements. Ah, peut-être qu'Yvan veut dire quelque chose.
Bon, c'est très court. En t'écoutant, il m'est venu une idée. Au Moyen-Âge, il y avait les châteaux forts. Maintenant, on a les panneaux forts.
Oui, c'est exactement ça.
Inviolable.
C'est exactement ça.
Une question très naïve. Est-ce que vous avez réussi à savoir comment étaient programmés les écrans? Est-ce qu'il y a possibilité, si vous pouvez ouvrir le coffre, de parasiter, entre guillemets, de réutiliser le support finalement pour diffuser d'autres messages que ceux qui étaient prévus et payés par les annonceurs?
Alors là, moi, je suis pas du tout spécialiste et compétent pour répondre à ça. Simplement, comme tous les panneaux, il y a des systèmes d'ouverture qui se situent en bas du dispositif avec des trouées qui sont ménagées dans la partie basse du coffre pour l'insertion d'une clé qui va servir à ouvrir le coffre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on a pressenti le déploiement de ces dispositifs et après les actions qui ont été menées en justice pour essayer de freiner leur expansion, il y a des gens du collectif qui ont rencontré des ingénieurs de développement, des programmes qui servent à tout ce qui est identification faciale, tout ce qui est transformation de l'information, donc à des visées commerciales, marketing, donc pour avoir justement un retour d'information sur les publicités qui sont visionnées par les passants du métro. Donc c'est une personne qu'on a rencontrée qui fait partie d'une société qui s'appelle Minority Report. Donc ça s'invente pas, hein, parce que c'est un
Majority Report.
Majority Report, pardon. Donc c'est ça voilà, c'est donc il y a un lien direct vers le film, peut-être que certains d'entre vous connaissent, hein, qui décrit une société cauchemardesque, hein, où effectivement dans ce film on voit effectivement des dispositifs de publicité qui interagissent avec les gens dans le film. Et donc c'est voilà, ils s'en cachent même pas. Hein, c'est vraiment c'est le projet de société qu'ils ont pour l'humanité. Donc c'est Minority Report, c'est Majority Report, c'est la société qui va développer ces systèmes pour traquer le citadin et l'individu dans ses transports, dans ses déplacements, pour pouvoir analyser son comportement et pour pouvoir récupérer des informations à visée commerciale.
J'avais une question pour toi justement. Est-ce que par rapport à l'entrée vidéo, tu as vu d'où elle venait? Si c'était à l'intérieur ou si c'était un câble qui venait, tu sais?
En fait, tous les écrans sont reliés par le réseau à une salle centrale qui organise la diffusion des publicités. Et ils ont organisé le réseau en passant par les câbles de courant électrique. Donc ça passe par l'alimentation de 220 volts, c'est le courant porteur en ligne. Donc c'est une manière d'organiser un réseau en passant par le réseau électrique existant. Donc tout ça veut dire que c'est centralisé, que donc ça passe par le câble d'alimentation qui arrive dans l'écran, qui est parfois visible, selon comment les écrans sont installés. Dans le métro, il y en a où on voit les câbles d'alimentation qui partent dans le plafond. Tous les nouveaux qui sont dans les gares, là j'ai vu Saint-Lazare, Montparnasse, viennent d'être gentiment installés dans tous les sens, ils sont dans le sol. Et donc le courant porteur en ligne... c'est piratable, ça existe, il y a des outils pour le faire, mais ça veut dire que tu arrives avec ton ordinateur portable et une pince crocodile sur le câble d'alimentation dans le couloir du métro, et tu es donc extrêmement discret. Et en plus de ça, ça doit probablement être crypté. Donc techniquement, c'est faisable sans ouvrir le panneau en se branchant sur le câble, mais à mon avis, il y a du boulot.
Justement, je me posais la question, parce qu'en fait, je sais que les entrées vidéo, avec un aimant très très fort sur une entrée vidéo, donc pas forcément d'électricité, ça parasite l'entrée vidéo.
Parasite, oui, mais pour changer les choses.
Voilà, sans changer, juste parasiter. Voilà. Après, j'avais justement aussi réfléchi, ces panneaux-là sont muets pour l'instant, Dieu merci. On n'a pas encore de musique qui joue avec. Mais l'idée peut-être de faire comme un graffiti sonore sur ces panneaux-là, en insérant peut-être du son qui irait à l'encontre du discours qui est affiché sur l'image, et donc peut-être de jouer un discours contraire, justement, ou un discours qui détourne d'une façon audio le message affiché. Par contre, là, on est aussi intrusif, dans le sens où on fait encore un pas en avant. Voilà, on nous projette des images qu'on n'a pas envie de voir, et ben pour aller encore plus loin, nous, on va projeter du son qui va à l'encontre de ces images, mais personne n'a envie non plus d'avoir un crin-crin dans le métro qui perturbe aussi. Mais ça peut questionner, malgré tout.
Il y a eu à Paris l'an dernier des panneaux d'affichage 4x3 dans la rue qui étaient sonorisés. Donc ça a déjà été fait à Paris. Donc les écrans en question, typiquement, on a demandé, on en parlera tout à l'heure au moment de la loi Grenelle, que la sonorisation des panneaux soit interdite. Ça a été refusé par le gouvernement. Donc à partir du moment où ils refusent qu'on interdise la sonorisation, c'est que quelque part, il y en a qui ont déjà des projets dans les cartons.
Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des... Oui ?
Sur les panneaux, j'irais dans le sens de ce que disait... Yvon, c'est-à-dire que ce n'est pas la CNIL qui a bougé sur le sujet, c'est quand même 5 associations. Oui. Il y avait les anti-pubs, les Big Brother Awards, Robin de Toit par rapport au portable, et le fait qu'il y ait dedans un système... de sonorisation. Seriez-vous êtes filmé par rapport à la vidéosurveillance? La réponse au panneau, c'est aussi une mobilisation collective, quelque part, qui dépasse, qui permette... C'est un gros outil de questionnement qui, vraiment, un outil qui est là, et une présence constante sur laquelle on peut bouger ensemble. Et je pense que, non seulement on a porté plainte ensemble, mais à l'automne dernier, on a essayé de... par deux fois, on a fait des actions collectives dans le métro, toute révolte confondue par rapport à ces panneaux. Ça pourrait être bien de continuer aussi cette symbiose sur le symbole que représentent ces panneaux ACR.
Ouais, complètement. Alors, pour mémoire, il y a un collectif qui s'était monté en janvier 2010 à peu près, ou peut-être un peu avant, qui s'appelle Danger Écran Pub. Donc c'était la première réaction d'ampleur vraiment contre ces panneaux publicitaires. C'était des actions d'un collectif clandestin, donc des actions à visage masqué, enfin pas masqué, mais en tout cas pas à visage découvert comme les actions des déboulonneurs. Il y en a eu deux des comme ça. Ensuite, rap a fait quelques actions légalistes sur ces panneaux avec un dying notamment, j'ai souvenir, mais ça c'était peut-être bien avant. Un dying. C'est quand tout le monde fait semblant de mourir devant un panneau. Comment ? Une jonchée ? Ok, donc une jonchée devant un panneau publicitaire vidéo, et puis voilà. Je sais aussi que les Robins des Toits qui défendent les personnes. Enfin, Élise peut en parler mieux que moi, je pense.
Oui, en fait, il y a, ce dont tu parles, c'est qu'il y a eu plusieurs structures, donc Robin des Toits, RAP, qui ont demandé à ce qu'un expert indépendant soit nommé par la justice pour ouvrir les écrans et voir exactement ce qu'il y a dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces associations ont été déboutées, si je ne me trompe pas. Donc du coup, cette demande a été jugée irrecevable par le juge. Donc il n'y a jamais eu d'expert indépendant qui a pu ouvrir et voir ce qu'il y avait exactement dans les panneaux, au nom aussi du secret industriel, pour tout un tas de choses comme ça.
Au nom de la confiture, l'avocat de jamais c'est minorité ou majorité, d'accord, a dit au tribunal, l'avocat...
L'avocat de nos adversaires a dit au tribunal, je sais parce que j'étais à côté de lui, quand grand-maman a fait de la confiture, on n'a pas besoin de savoir comment elle l'a fait. Texto.
Je suis revenu parce qu'en fait j'ai oublié de dire ce que j'avais à dire à la fin de mon intervention en fait. Et ça tombe bien, Yvan, tu reviens sur cette société. Majority Report, donc on avait rencontré la personne de cette société et on voulait essayer de retirer quand même des informations pour savoir ce que pouvaient exactement faire en fait les logiciels qui équipaient les capteurs pour surveiller le citoyen. Et en fait cette personne est restée très vague, elle nous a pas lâché grand chose parce qu'en fait elle avait peur de le faire et elle était pas prête à partager ses secrets avec nous. Elle nous a simplement dit quelque chose qui nous a quand même laissé un petit peu rêveur. Elle nous a dit vous n'avez qu'à laisser libre cours votre imagination pour pouvoir saisir un petit peu toutes les capacités et les potentiels de ces logiciels qui équipent ces capteurs espions. Voilà, vous n'avez qu'à laisser libre cours à votre imagination pour avoir une idée. Voilà. Donc c'est,
Juste pour terminer au niveau des actions, du coup après en janvier, c'était en janvier 2010 aussi, les déboulonneurs ont fait une action à visage découvert contre ces panneaux publicitaires, ces panneaux vidéo, ce qui a déclenché, il y a eu un peu de presse là-dessus, je sais pas si vous êtes tombé dessus. Puis on en a refait une là en juin. Par contre, on n'a pas eu d'écho, quasiment rien quoi. Donc peut-être qu'effectivement il faudrait chercher des nouveaux moyens d'agir et de questionner parce que là ça n'a pas fonctionné. Geoffrey me confiait tout à l'heure que dans les milieux hackers il se disait que les déboulonneurs avaient récupéré un panneau.
J'avais entendu ça justement, que les déboulonneurs avaient récupéré un panneau, alors je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Mais en tout cas, une des meilleures façons serait d'en récupérer un, de le dessiquer, de voir un petit peu ce qu'il y a dedans plus en détail, de prendre le temps de le hacker, de le bidouiller, pour pouvoir voir comment il fonctionne. Parce qu'en fait, si sa seule solution, si son seul contact avec l'environnement extérieur, c'est l'air qui rentre dedans, alors de l'air, dans l'air, on peut mettre du métal, on peut mettre par exemple des particules aimantées. Je dis ça, je sais pas. Voilà. Après, ça peut être l'engrais, on peut mettre beaucoup d'eau aussi, par exemple. Donc, je pense qu'il y a plusieurs moyens. Enfin, voilà, il suffit. Autant les possibilités de ces panneaux vont jusque là où peut aller notre imagination, autant là aussi où va notre imagination, ça va être la façon dont on peut détourner ces panneaux-là. Donc voilà, il y a des gens, souvent dans le métro, je prends en photo parce qu'il y a des gens qui les cassent. C'est très très beau, hein, c'est une espèce de toile d'araignée avec cet écran tout brisé, c'est magnifique. Après, est-ce qu'il y a d'autres façons, parce que c'est un peu délicat de faire ça, est-ce qu'il y a d'autres façons de les détourner, de se les réapproprier? Je pense qu'il y a peut-être des façons participatives de poser la question sur Internet ou de réfléchir avec des gens qui savent programmer, qui savent transformer les choses, qui savent détourner les objets pour pouvoir se réapproprier. Je ne sais pas si d'autres personnes avaient des choses à dire par rapport à ça. Ok. On enchaîne sur quoi? On continue sur...
Après, je sais pas, est-ce que tu connais d'autres nouvelles technologies de la publicité, à part les écrans, peut-être dans l'espace public et d'autres moyens
Dans l'espace public, les écrans, c'est une des premières choses. Après, la publicité intrusive, elle est aussi dans les espaces privés, pas forcément publics, quand je pense dans les magasins, etc. Donc on a beaucoup de... Par exemple, La Poste, prenez La Poste, en 5 ans, quand j'arrive dans un bureau de poste, c'est des encarts pubs à tous les coins de rue, il y a tous les coins du bâtiment, et quand je fais la queue, j'ai une espèce de vidéo qui clignote et qui me dit des trucs, faut acheter du colis, du chronopost, je sais pas. Donc ça aussi, je pense que c'est des questions aussi qui sont pas forcément dans l'espace public, mais aussi dans les espaces privés, La Poste, qui sont semi-privés ou semi-publics, ça dépend dans quel sens on le prend, qui sont aussi à questionner beaucoup, parce que voilà, je pense à La Poste, où il y a énormément de Français qui ont leur compte à La Poste, qui vont à La Poste tous les jours ou très souvent, et bien tout à coup il y a des marques qui s'introduisent là-dedans et qui vendent des choses. Et j'ai souvenir moi-même d'avoir été à La Poste pour envoyer une lettre avec quelque chose dedans, et on m'imposait d'acheter un Colissimo, je sais pas quelle marque, pour pouvoir le transporter. Moi j'avais refusé, j'ai dit non, je veux juste faire ça par enveloppe. Les postiers avaient écrit sur l'enveloppe « client averti ». J'avais trouvé ça très mystérieux, j'avais dit oui, mais... Ils m'ont dit oui, mais on sait jamais, ça peut machin et tout. En gros, client averti, ça veut dire au facteur, allez-y, vous pouvez vous servir, quoi, y a pas de souci, le client est averti. Donc je suis. Pardon ? Oui, bah en tout cas, j'avais pas voulu acheter ce Colissimo, cette chose-là, je voulais passer par le système normal. Et ils m'ont dit, vous êtes sûr, attention, c'est dangereux, vous pouvez vous faire voler votre truc. Et donc c'est écrit sur l'enveloppe client averti. J'avais trouvé ça assez. Donc je suis parti, j'avais changé mon enveloppe, etc. Et donc, ça s'intègre aussi dans ce genre de choses de façon un peu insidieuse. Et si on vous recommande très fortement, parce que c'est très conseillé, sinon votre colis peut éventuellement disparaître ou être abîmé, bah, les gens, ils cherchent pas 30 secondes, ils achètent un truc qui est trois fois plus cher. C'est mafieux comme méthode, tout à fait.
Je voudrais apporter un témoignage parce que l'introduction de ces écrans et de ces pubs à La Poste, ici par exemple, Creusatier qui a été refaite, et maintenant c'est absolument moche et il y a des écrans partout, moi ça m'avait énormément choquée.
Il n'y a pas que les écrans aussi.
Oui, il y a plein de choses. Donc j'ai écrit à la direction de La Poste pour me plaindre. Et en fait, la réponse que j'ai reçue, je ne sais pas combien de mois après, c'est comme si j'avais été mécontente de l'accueil fait par les postiers. Et donc en fait, la question a été totalement évitée.
Biaiser la question.
Ah ouais, totalement.
Ah oui, ouais.
Ouais, je voudrais aborder deux points, un hack fait et un hack faisable. Peut-être d'abord le hack faisable, un peu sur le même thème que La Poste, c'est les pharmacies. Je trouve mais complètement scandaleux que dans le lieu où on vient chercher des médicaments pour se soigner, on retrouve des écrans, mais qui sont parfois géants, qui font, par exemple, si vous prenez à Reuilly-Diderot, juste là, Félère-Chaligny. À Félère-Chaligny, il y a une pharmacie où il y a un écran qui fait facilement 4 mètres par 3 mètres, ou peut-être un petit peu moins, 2 mètres par 3 mètres, mais c'est du total délire. Donnant sur l'espace public. donnant sur l'espace public. Un truc mais complètement gigantesque qui bombarde des images mais complètement monstrueuses. Et spécialement dans cette pharmacie, avant même qu'ils installent cet écran, j'étais allé les interpeller et la réponse de la pharmacienne qui n'était pas la patronne, hein, c'était de toute façon, nous on n'a rien à faire de ce que vous racontez. C'était, et moi, mon discours, c'était, il me semble que, bon, enfin, en tout cas, moi, je m'attends à ce que une pharmacie, ce soit un service public qui ne soit pas motivé par le lucre, mais qu'au contraire, on soit là pour rendre un service à des personnes qui sont malades quand ils en ont besoin, et qu'on soit pas en train de leur dire prenez tel médicament parce que si vous avez la varicelle, c'est celui-là, et puis que la pub d'à côté dise prenez tel médicament parce que si vous avez la varicelle, c'est plutôt celui-là qu'il faut prendre, qu'on se retrouve dans une schizophrénie, ou du moins dans un manque de confiance vis-à-vis de cet acte essentiel de la société qu'est la santé. Deuxième point que je voulais aborder, c'est un hack dont j'avais entendu parler dans un petit festival que je trouve absolument génial, qui est le Festival des Résistances Alternatives à Paris, il y a quelques années. Un hack qui s'était fait avec une nouvelle technologie absolument extraordinaire qui s'appelle la brouette. Près de, à Athènes, là où le jeune s'était fait tuer lorsqu'il y avait eu les premières révoltes, il y a longtemps, pas celle de la place Saint-Tagmar, c'est-à-dire il y a quelques années, vers 2005 ou 2008, je ne sais plus bien, on nous avait rapporté lors du FRAP, du Festival des Résistances Alternatives à Paris, que suite à l'habitude de s'organiser en AG et à décider collectivement, ils avaient pu venir avec des brouettes pleines de terre sur le parking qui jouxtait le lieu où le jeune s'était fait assassiner, déverser chacun une brouette de terre, y planter des arbres, aller voir la mairie d'Athènes et leur dire c'est fini, c'est plus un parking, c'est maintenant un jardin. Voilà. Parallèlement à ça, il y a aussi un site intéressant d'un certain point de vue qui s'appelle Parking Day, qui propose de mettre en œuvre des actions de ce genre-là, à savoir récupérer des espaces qui peuvent être de 1 mètre carré, hein, y compris 1 mètre carré. On vient avec des pioches à 15, on ôte le bitume, on plante des fleurs, on met des barrières et on dit c'est plus un parking, c'est un jardin.
Et il y a un prochain Parking Day qui est le 16 septembre à Paris. Enfin, c'est mondial, donc voilà. Et en gros, le principe, c'est que les gens louent une place de parking. Et c'est leur place de parking. Sauf que sur une place de parking, qui a dit qu'il fallait mettre une voiture? Donc les gens viennent avec du gazon, un transat, s'installent, boivent une petite citronnade. Et il y en a d'autres qui créent avec leurs ordinateurs, ils s'installent et ils disent voilà, ici on décrète que, je sais pas, c'est du wifi libre, tout le monde peut venir se connecter, faire ce qu'il veut, etc. etc. Et donc l'idée du parking day, c'est un peu ça, c'est justement de réapproprier de nouveau l'espace public, mais d'une façon ludique, d'une façon assez. Qui questionne aussi bien sûr la réappropriation et ça a lieu tous les ans et là à Paris, je sais qu'il y a c'est à côté de Grand Boulevard je crois sur l'avenue, je ne sais plus le nom, mais il y a notamment des places de parking qui vont être appropriées, qui vont être installées.
C'est Perrin comme système.
Le Parking Day, ouais. C'est Perrin, c'est-à-dire une fois que c'est installé ça reste plusieurs jours,
ouais.
En fait, en théorie, c'est une journée pour qui a lieu de journée symbolique. Après, je pense, je sais pas si ça peut durer, à condition peut-être on mettrait une pièce dans le parc.
Il me semble que le mieux, c'est de retirer le bitume.
Retirer le bitume et puis de mettre, sous les pavés. Hein.
Ouais, et le parking day, là, il est. Enfin, j'avais vu qu'il y avait je sais pas si c'est une entreprise qui l'organise, mais en tout cas des personnes issues d'une entreprise qui s'appelle, d'une organisation à but lucratif qui s'appelle Dédale, pas Dédale l'association. Hein. Et du coup, je sais que RAP a eu une demande pour de venir participer, etc. Et je sais pas trop comment c'est organisé. Alors si il y a des gens qui ont des.
Il y a la cantine aussi à Paris qui organise la cantine qui est justement à Grand Boulevard. Qui organise aussi qui s'occupe aussi du parking des. Pour vous raconter rapidement, en fait, il y a deux ans, j'ai fait un projet. J'étais étudiant et mon projet de fin d'année s'appelait Hacking Citoyen. Et c'était sur le détournement des systèmes de surveillance au profit du citoyen. Et donc, moi je suis dans une école d'État, Et donc c'était assez délicat de tout à coup se mettre en opposition par rapport au système d'État, sachant que c'était un diplôme d'État. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai réalisé des prototypes que l'on peut retrouver sur hacking-citoyen.fr, et vous tapez hacking citoyen sur n'importe quel navigateur. Et l'idée, ça a été de créer des objets. Donc il y a des clés USB, j'ai fait des projecteurs infrarouges, j'ai fait des portefeuilles, etc., qui permettent de retrouver un peu de liberté. Donc pour commencer, un des objets phares, on va dire, c'est un bonnet qui projette de la lumière infrarouge qui éblouit les caméras de surveillance. La lumière infrarouge, en gros, c'est ce que les caméras de surveillance utilisent pour éclairer la nuit, pour filmer. Sauf que personne ne la voit, l'œil humain ne voit pas la lumière infrarouge, c'est une onde que l'œil ne voit pas. Par contre, les caméras voient très bien, c'est pour ça qu'elles peuvent filmer la nuit sans problème. Donc moi j'ai acheté ces petits projecteurs, je les ai démontés, je les ai bidouillés, et puis l'idée, je les ai montés sur un bonnet ou sur une broche, etc., et je les ai retournés. Et donc personne ne voyait que c'était allumé. Et donc quand je me baladais, et ben en fait les caméras étaient éblouies, tout simplement parce que la lumière était retournée vers elle, en fait. Et donc l'idée, ça a été un des objets. Donc voilà, j'appelais ça le bonnet IR infrarouge. J'en ai fait des broches, j'en ai fait plein de trucs très différents. Et l'idée, c'était aussi de se dire, voilà, tout le monde peut le faire. Je commande les petits trucs infrarouges sur Internet. Je soude 2-3 fils. Je tricote un bonnet ou j'en achète un, j'installe ça, et j'ai été notamment approché par des personnes qui font du graffiti, des anti-pubs, etc., qui s'intéressaient justement pour être un peu le visage ébloui auprès des caméras. Ça marche pas avec toutes les caméras, ça marche pas avec pas mal de trucs, mais en tout cas c'est quelque chose qui est faisable, qui est à améliorer, qui est à approfondir, qui est à bidouiller aussi, voilà comment on dépasse ce que j'ai proposé là. Donc ça a été un des objets que j'ai réalisé. Après, j'ai réalisé aussi des clés USB anti-Adopi. Je branche ma clé, je clique sur un bouton, je suis protégé d'Adopi. Ça, c'était aussi l'idée de faire ça de façon très simple pour monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, sans s'y connaître l'informatique, etc. Et dans ce petit logiciel qui était présenté, on avait aussi des discours de l'Assemblée nationale de ce qu'ils disaient sur les débats sur la Adopi. Donc on avait Brard, on avait, Christine Albanel, etc., qui était, la loi Adopi, pour résumer rapidement, c'est une loi qui a pour vocation d'aller à l'encontre du piratage, officiellement, mais en surveillant ce que font les citoyens. Donc c'est potentiellement tout le monde est suspect, donc j'essaye de trouver... je le fais de façon très large, hein, voilà. Vous pourrez vous renseigner là-dessus. Donc il y avait une petite clé USB comme ça. Il y avait une autre petite clé USB qui permettait de générer des identités. Donc je branche ma petite clé, et puis quand j'ai des sites qui me demandent un numéro de téléphone, une photo, une vidéo, enfin n'importe quoi, je clique et j'ai tout. Alors j'avais pu faire le numéro de sécurité sociale, carte bleue, mais ça c'est illégal, donc je les avais retirés. Mais en fait, on peut générer des fausses identités pour les donner au site internet qui nous questionne à chaque fois. Il faut inventer un numéro, il faut inventer un nom, il faut inventer un email. C'est très fastidieux, donc là en un clic, on avait ça. Toujours dans ces objets, c'était un portefeuille, j'avais fait un petit portefeuille comme ça, qui protège les cartes à puce RFID. Donc votre passe Navigo, si vous prenez les transports, il y a une puce RFID dedans. Il faut savoir que le RFID, c'est une technologie qui, au départ, n'a pas été conçue pour être utilisée sur les humains. C'est plutôt conçu pour des caisses en carton, des caisses en bois, dans les usines et dans les entreprises, pour identifier rapidement et les scanner rapidement en disant « Ok, ça c'est caisse numéro 1, caisse numéro 2 ». Puis un jour, il y a un mec qui s'est dit « Ok, ça coûte pas cher à fabriquer, c'est très fin, c'est très plat. Bon, on va les utiliser pour les cartes pour les humains, ce sera pratique, ça sera des numéros. » Sauf que ces cartes RFID, notamment la Navigo et il y en a d'autres, la Oyster Card à Londres, qui est une carte de transport aussi, elles sont pas conçues pour être sécurisées au départ, donc elles ne le sont pas à l'arrivée, et y a des hackers ou il y a des petits malins qui s'amusent parfois à récupérer les données, ou en tout cas c'est pas très sûr. Et donc ce portefeuille là, pareil, tout le monde peut le faire, c'était de mettre une couche d'aluminium et plusieurs couches d'aluminium assez épais, et ça fait une cage de Faraday, donc ce qui fait que si quelqu'un veut scanner ma carte à mon insu ou dans un marché ou j'en sais rien, c'est pas lisible, parce qu'avec les ondes, ça marche pas, et ça résonne, et ça fonctionne pas. Donc là, c'était un portefeuille en disant, je sors ma carte, je la passe, je sais que je donne mon information, je la remets, je suis sûr qu'elle sera pas prise. Donc c'était toujours de laisser le choix d'être fiché, ou d'être déclaré en tant que tel, ou de ne pas l'être. Et puis, bon, il y avait tout un ensemble de petits prototypes comme ça, et l'idée vraiment derrière ce projet-là, c'était vraiment de se dire, vous pouvez le faire, faites mieux, parce que moi j'avais fait ça juste sur un an, et donc il y a vraiment mieux à faire, et il y a la façon de détourner, etc. Et j'ai tout regroupé donc sur un site qui s'appelle Hacking Citoyen, pour aller jeter un petit coup d'œil. Et avec derrière vraiment l'idée de laisser aux citoyens le choix. Parce que ce qu'on disait aussi, et ça Antonin pourra vous en parler, c'est que ben, si je veux avoir sur internet un compte email gratuit, et ben, par exemple je vais sur Google et je dis à Google, ben, tu reconnais mes informations, tu les lis, mais en échange tu me laisses avoir gratuitement un service. Et donc là en théorie on laisse au citoyen le choix de vendre entre guillemets ses informations contre un service. Et moi, en fait, mon idée, c'est de laisser le citoyen d'avoir le choix de donner cette information, d'être filmé, s'il veut être filmé par une caméra, etc., etc. Et puis, un des derniers prototypes que j'avais fait, c'était une petite carte qu'on avait sur son téléphone. Et puis, ben, si un jour, il y a une caméra de surveillance qui est installée par la mairie de Paris ici, je la prends en photo, j'y allais à tel endroit, et comme ça, j'ai une carte sur mon téléphone qui me dit, eh ben voilà, à tel endroit, il y a une caméra de surveillance, elle est en photo, je l'ai noté, et devant une école maternelle, devant ce genre de truc, eh ben, on peut savoir. Et dans l'idée, ce serait peut-être d'imaginer aussi des parcours sans caméra. Je vais être Belleville à Bastille, et de générer un parcours sans caméra. Ben, vous allez voir, c'est assez difficile.
C'est quoi l'adresse du site, cette carte ?
Alors le site pour la carte, en fait, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, s'appelait maps.net. Il a été piraté. Donc le site a été... Voilà, j'ai encore toutes les sources, etc. On pourra le remettre en place, peut-être Antonin, si tu m'aides. Mais en tout cas, il a été archivé. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ovni.fr, que vous connaissez peut-être, qui est un site internet. Ils ont recréé aussi ça. Il y a le poste aussi qui a recréé cette carte. Bref, on commence à avoir plusieurs procédés comme ça qui existent, qui sont pas mobiles encore, mais en tout cas, ça, c'est un peu dans l'air du temps et ça se répand.
Alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai pris connaissance effectivement de ce projet il y a quelques temps maintenant. Arthur Lutz et moi et d'autres personnes qui sont dans l'antipub ont décidé de faire la même chose, mais pour les panneaux publicitaires. Alors, il y a encore plus de travail. Hein. Concrètement, des panneaux pub doivent y avoir bien, je sais pas, 20 fois plus que des caméras de surveillance dans Paris,
même largement. 1 million à peu près, tout
ça. Ah ben voilà, donc 1 million de panneaux pub, voilà. On a un boulot assez titanesque, mais en tout cas, on pense que ce serait très intéressant de recenser ces panneaux de manière à ce que le citoyen ait connaissance de son espace public, de savoir comment est configuré son espace. L'idée ensuite, ça pourrait être d'aller vers de la mise en action, donc c'est récolter de l'information pour ensuite mener des actions militantes qui permettraient de contester ces panneaux. Alors ça peut être de plein de façons différentes, en repérant par exemple les panneaux illégaux.
Savoir combien les panneaux rapportent et à qui aussi.
Ah oui, bah oui. Pas, oui. Enfin bon, y a pas mal de choses à faire, et puis même pour les actions de désobéissance civile, ça permet même de localiser pour nous très vite là où on peut agir dans les espaces. Donc voilà, le site a été mis en ligne très récemment là, ça s'appelle cartographiepublicitaire.org, et donc vous pouvez commencer à contribuer si vous voulez, tout est expliqué sur le site. Et voilà, on s'appuie sur OpenStreetMap qui est de la cartographie collaborative. Comme Wikipédia en fait, l'encyclopédie en ligne, sauf que là ça s'applique aux cartes et tout le monde peut rajouter des informations sur la carte. Et donc nous on a pris le parti de rajouter des panneaux publics. Voilà.
Et ce qui est très intéressant justement, en général, l'image qu'on a avec la technologie en tout cas, c'est que bah, c'est Facebook, c'est Google, c'est les panneaux pubs, etc. Et là avec des initiatives comme ça, bah, c'est aussi la possibilité à tout le monde d'avoir accès à des informations. Pour moi, Internet permet ce genre d'action et ce genre d'initiative, mais aussi en général les technologies de façon plus large, les gens qui savent programmer, qui savent faire de la soudure, qui savent commencer à coder un peu, et ben, ça peut aider à aller à l'encontre de cette espèce de technologie qui envahit beaucoup l'espace privé. Je pense que justement, c'est un outil comme un autre pour moi, et c'est quelque chose qui est juste à bien utiliser pour aller dans les fins qui nous intéressent. Quoi.
Visiblement, à King Citoyen, vous êtes en retard sur la vidéosurveillance. Mais une proposition, puisque nous, on a repéré les 1000 caméras qui vont être installées dans Paris. On va faire des actions de marquage des emplacements des futures caméras. Peut-être qu'on pourrait faire un travail commun sur cette...
Avec grand plaisir.
Le 18e d'abord, le 19e après. Plusieurs rendez-vous sont prévus fin octobre.
Très bien, on discutera.
Si tu as d'autres.
Non,
c'est celle d'Antonin. Eh ben oui, sur Antonin. Si ça en aura.
Est-ce que quelqu'un a une intervention, une remarque, une question sur la première partie du débat, qui était sur la piraterie de la ville pour se débarrasser de la pub? Non. On peut passer à la... Oui, il faut que tu viennes au micro.
C'est juste une petite info. Si vous vous souvenez, en mai, il y avait un bâchage dans le 18e, rue Ramey, pour une pub qui était fixée sur des barrières de travaux. Je crois que c'est la RATP qui faisait des travaux avec EDF. Et il y avait eu un bâchage un samedi matin. Il paraît que donc ça, également les barrières et la pub donc étaient donc restées là depuis peut-être 8 mois ou plus, je ne me souviens pas. Et lors du bâchage, il y avait un commerçant, c'était un papetier, qui était assez énergique et qui se battait contre ça. Et par hasard, hier, je suis passé dans le quartier et je l'ai vu quand je suis allé le voir. Et il m'a dit qu'il a, deux jours avant, donc avant-hier, il avait téléphoné, je ne sais plus à qui, c'est à EDF ou à... Je me souviens plus exactement à qui. Et sous deux jours ou un jour, le lendemain, ils sont venus démonter la publicité, enfin le grand panneau, c'était un 4x3. Et ils ont déplacé les barrières qui gênaient la marche sur le trottoir. Donc en fait, après son coup de fil, le lendemain, l'entreprise est venue virer tout ça. Très juste. Oui, il leur a parlé de manière très énergique et a précisé qu'il avait un très bon avocat qui s'appelait X et Wintel et que bon maintenant il fallait qu'il s'active.
Ouais, en fait c'est des faux travaux en fait pour justifier la présence de panneaux. C'est ça? En fait ce sont des faux travaux. Ah, oh, qui traîne. Ah, ouais. Mais je crois que j'ai déjà entendu parler de ça, de pseudo-travaux pour justifier la...
Après, il y a eu des actions de fou.
Oui, Yvan confirme. Voilà, pour justifier la mise en place de panneaux publicitaires. Donc on passe à la seconde partie sur les nouveaux publicitaires de l'ère numérique. Antonin, sacré programme.
Ouais, et on est déjà en plein dedans. Alors en fait, je vais surtout vous parler, enfin on va parler surtout de Google et Facebook, qui sont d'énormes pourvoyeurs de données personnelles aux annonceurs. Donc à travers les réseaux sociaux, vous connaissez peut-être donc Facebook, et puis les moteurs de recherche comme Google et maintenant le réseau social Google Plus qui est censé concurrencer Facebook. Donc voilà. Donc l'idée c'est de proposer aux citoyens, à l'utilisateur, un espace de sociabilité où il peut rentrer ses données personnelles et se mettre en contact avec ses amis et des personnes qui partagent les mêmes affinités. Donc l'idée est très intéressante. On a vu que dans bien des cas, ça a une très grande utilité pour les citoyens, notamment pendant les périodes d'agitation qu'ont connues les révolutions arabes et anglaises. Enfin, ouais, après, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc. Et puis aussi même pour des amateurs qui partagent des passions, ça leur sert à se rencontrer, à s'enrichir, à échanger, partager leur savoir. Mais derrière tout ça, il y a quand même un sacré business et une exploitation très, très ciblée de ces données qui sont laissées souvent avec assez peu de discernement par les utilisateurs dans ces bases de données. Voilà, je sais pas si vous êtes des utilisateurs acharnés.
Est-ce
ou
que vous êtes sur Facebook qui se dénonce? En fait, je pense que...
Ouais. M'intéresserait, moi je ne suis pas, mais ça m'intéresserait de savoir s'il y a des déçus des réseaux sociaux.
Ouais. À ce niveau-là, j'aimerais bien parler d'une période qui devait être il y a 2 ans environ, un moment donné où en fait Facebook de plus en plus rendait les paramètres de par défaut de configuration des identités des utilisateurs de plus en plus permissives. C'est-à-dire que Facebook faisait en sorte que les utilisateurs laissent plus facilement leurs données personnelles accessibles, de manière à conserver beaucoup plus facilement les utilisateurs sur Facebook pour qu'il y ait plus de contenu en fait et pour leur faire manger plus de pubs, voilà, et les cibler plus précisément. Donc il y a eu toute une période comme ça de, je sais pas, on va dire 2005 à 2010, où là 2010 c'était un peu le paroxysme où il y a eu des mouvements de contestation assez forts, où il y a des sites qui sont créés qui se disaient telle date je quitte Facebook, et il y avait plusieurs milliers d'utilisateurs qui étaient qui s'étaient inscrits pour dire oui moi je vais quitter Facebook, j'en ai marre, il y en a assez. Il y a même des sites qui proposaient d'effacer les identités des sites tierces qui proposaient aux utilisateurs de les aider à effacer leur identité sur Facebook, parce qu'il faut savoir que sur Facebook, pour supprimer son compte, il faut s'accrocher. Faut faire une demande. Bon, déjà ils mettent, enfin, je sais qu'à l'époque, je sais pas maintenant, mais à l'époque ils mettaient genre un mois pour vous répondre que d'accord, ils voulaient bien effacer vos données du réseau pour les utilisateurs, mais par contre que toutes les données seraient archivées dans leur base de données à eux. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez, enfin, pas du tout respectueux des lois ni des utilisateurs. Et face à cette situation, il y a un mouvement qui s'est construit autour du logiciel libre pour créer une alternative à ces réseaux sociaux centralisés qui exploitent les données personnelles des utilisateurs pour, à des fins publicitaires. Enfin, je ne cite que des fins publicitaires pour le moment, mais il y en a d'autres, pour les États, pour les agences de sécurité, voilà. Et donc il y a un mouvement qui s'est créé autour de Diaspora, peut-être vous avez entendu parler, qui est un logiciel libre qui veut développer un réseau social décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de centre, que tout le monde puisse installer sur son propre serveur le logiciel, de manière à avoir le contrôle sur ses données personnelles. Donc il y a, voilà, il y a des projets qui sont en gestation, il n'y a pas que Diaspora c'était plus médiatique. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de se construire pour contrer ça.
À savoir, moi j'avais cru comprendre, en tout cas sur Facebook, si certains paramètres étaient mal réglés, en tout cas réglés dans un mauvais sens, mes données comme ma photo de profil pouvaient être utilisées pour faire de la publicité. Est-ce que c'était vraiment ça ou est-ce que tu l'as vu ça?
Oui. Oui, tout à fait. J'ai pas vu ça comme ça. En tout cas, je sais que dans vos recommandations sur Facebook, vous avez un petit carré où il y a écrit votre amie machine, elle adore ce produit parce qu'elle a cliqué sur j'aime sur je sais pas quoi. Et en fait, ça vous dit que puisque votre ami l'aime, vous devez sûrement l'aimer aussi. Donc en fait, ils prennent très concrètement en otage votre réseau pour vous pousser à acheter, quoi.
Sachant que les marques qu'ils mettent en avant, c'est pas des marques, enfin, c'est des marques qui ont éventuellement donné de l'argent à Facebook pour faire remonter ce genre de choses, quoi.
Alors, gueule, on parle fort si bien, on peut. Comment dire. Moi, je me suis viré de Facebook.
Ah oui, c'est pas enregistré.
Tu t'es fait virer de Facebook.
Oui, je me suis viré de Facebook. Comment t'as fait?
Bravo, ton blanc, bravo.
Bravo.
Comment t'as fait?
J'ai rien fait.
Tu as critiqué Facebook.
On m'a dit à un moment donné que votre identité n'est pas conforme.
Stop.
Non mais c'est peut-être totalement anecdotique, hein, mais moi c'est le cas inverse. C'est-à-dire moi je m'appelle Le Plus Loin Boubenec et j'ai l'impression qu'il y a eu un problème avec ce nom. Et pendant certaines fois on m'appelait Monsieur Le. Et à un moment donné on m'a envoyé un message comme quoi Facebook était très strict sur l'identification des personnes et que moi il y avait un problème. Donc on m'a viré, mais enfin au-delà de ça, ça pose le problème de l'arbitraire. des décisions des gens qui veulent partir sur Facebook. Alors j'ai écrit et on m'a pas encore répondu.
Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, tu confirmeras, il y a Google+, donc le nouveau réseau social par Google, qui fait pratiquement la même chose que Facebook, a interdit l'utilisation du pseudonyme. Donc si vous voulez utiliser un pseudonyme, c'est interdit. Après, il y a eu beaucoup de problèmes, machin, ils se sont ravisés un petit peu. Il me semble que maintenant, on peut à nouveau mettre un pseudonyme. En tout cas, leur politique, c'est on met son vrai nom, son vrai prénom, ou en tout cas un nom et un prénom qui ont l'air vrai, pour pouvoir être identifié. Sinon, le compte était supprimé.
Il faut savoir que, par exemple, les personnalités comme Nicolas Sarkozy, il y a peut-être une dizaine de comptes qui se créent tous les jours avec comme nom et prénom Nicolas Sarkozy, et qu'il y a un comité qui est chargé, qui est payé par l'État, qui est chargé d'identifier ces comptes et de les dénoncer à Facebook, qui les supprime. Donc si on a le malheur d'avoir le même nom et le même prénom qu'une célébrité, on peut très facilement se faire supprimer.
Ouais, alors tout à fait.
Désolé pour tous les Nicolas Sarkozy de France.
Alors, c'est vrai que tout ça, c'est très très arbitraire. En fait, les médias sociaux, pour un certain nombre de personnes, c'est des espaces très importants où ils ont une partie de leur vie vraiment. C'est-à-dire que c'est leur identité numérique. Et effectivement, on peut se heurter à des décisions arbitraires comme celle-ci. Donc Facebook et Google ont la même politique, c'est-à-dire qu'ils interdisent des pseudonymes. D'ailleurs, si vous mariez ou vous voulez changer de prénom, vous avez intérêt à ne pas avoir un nom trop bizarre, parce que y a un contrôle, attention. Vous changez votre nom sur Facebook, d'accord, mais on va vérifier quand même derrière, faut pas déconner.
Comment peuvent-ils faire des contrôles d'identité? Depuis quand ont-ils le droit? Ils font des contrôles d'identité, du point de vue de quel état?
Alors, ils n'ont strictement aucune légitimité, à part celle de modérer leur réseau avec les règles qu'on a acceptées en s'inscrivant.
En cliquant sur « oui, j'ai lu les recommandations et je suis d'accord », qu'on n'a pas lu.
Voilà, et donc c'est vrai que c'est assez arbitraire. C'est chez Facebook, hein, c'est des gens chez Facebook qui modèrent en fait le réseau. Il y a cet exemple là, il y en a d'autres, je vais te passer après. Par exemple, pendant des. Alors je sais plus c'était dans quel pays, c'était dans un pays arabe, il y avait un groupe qui se déclarait homosexuel et qui se revendiquait homosexuel. Et il y a eu des plaintes de la part de l'État sur Facebook pour qu'ils censurent concrètement le truc. Facebook a obtempéré, quoi. Il y a des cas, faudrait que je reprenne, désolé, j'ai pas les sources là, mais il y a des cas où en fait c'est un peu en fonction de ses intérêts. C'est comme Google avec la Chine, il y a eu
ils ont censuré des recherches sur Google. Je crois que Tiananmen à une époque, c'était quand on cherchait Tiananmen depuis Google en Chine, ça n'arrivait pas. Alors après Google, je crois qu'ils ont râlé un petit peu parce que c'était pas, enfin ils ont pris un peu le dessus, mais bon.
Ouais. Alors.
Il n'y a plus Google en Chine.
Non, après ça c'est la Chine qui.
Alors il y a même, l'État chinois et Google sont en guerre froide, c'est-à-dire qu'il y a des hackers de ce qu'on appelle des hackers rouges qui sont à la botte de l'État chinois, qui vont essayer de hacker, enfin de bidouiller certains, par exemple des comptes Gmail, des boîtes mail chez Google pour récupérer des informations. Et ça, Google n'aime pas du tout. Du coup, ils ont menacé plusieurs fois de se retirer, etc. Donc il y a tout un jeu comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'État chinois voulait bien que Google soit disponible en Chine à condition qu'ils acceptent un certain nombre de choses, et dont la censure sur Tiananmen. Voilà. Et Google ont suivi parce que c'était un gros marché.
Moi, je voulais dire qu'à un moment, pour s'inscrire sur certains sites sociaux comme ça, il fallait donner son numéro de téléphone portable. Et à l'époque, je n'ai pas l'impression qu'il y avait moyen d'avoir un numéro de téléphone portable sans prendre un abonnement, c'est-à-dire avec son nom, son adresse. Mais là, c'est vrai qu'il y a les téléphones jetables, là. Donc là, il y a peut-être le problème n'existe plus. Mais moi, j'ai peur qu'à un moment, on ait vraiment un numéro, que ce soit le numéro portable où ils vont trouver un autre numéro et il n'y aura pas moyen d'avoir une présence sur Internet ou ailleurs, d'ailleurs, qui ne soit pas associé à ce numéro. Et là, ça va devenir un vrai problème. Il faut vraiment lutter contre ça.
À ce propos, très rapidement, il y a des projets de porte-monnaie électronique, c'est-à-dire le gouvernement est en train de travailler sur une fusion entre le téléphone portable et le portefeuille. Ça se fait déjà au Japon. On voit bien qu'il y a cet intérêt pour avoir une espèce d'objet traceur un petit peu qui est multifonction, lequel certes il nous trace, mais en même temps il est tellement pratique, il fait tellement chaud, il fait tout, quoi. Donc c'est vrai que ça pourrait être d'un côté super et d'un autre côté, voilà, on est tous tracés. Quoi.
Qui dit objet unique dit identité unique, et c'est là le souci. Quoi. Et pour revenir justement sur les pseudonymes et les noms, en fait c'est très gênant notamment pour les adolescents qui utilisent beaucoup Facebook, qui utilisent beaucoup, ne serait-ce que pour citer les Skyblog, etc. Et en général, j'ai étudié justement ça auprès des adolescents, et ils ont plusieurs comptes. Parce que justement, ils ont plusieurs blogs, parce qu'il y en a, ils aiment bien la moto, ils aiment bien le rap, et ils aiment bien ou ils aiment pas leur lycée. Et bien justement, ils font trois blogs pour parler de ça avec trois pseudos différents. Et en fait, sur Facebook, pareil, ils créent un pseudo pour leurs vrais amis, un autre pseudo pour les copains de loin, etc. Donc, en tout cas, l'adolescent aujourd'hui utilise différentes facettes de sa personnalité, différentes facettes de son profil, pour pouvoir gérer ça de façon plus simple. Nous aussi, parfois, on a tendance à le faire. Et donc ça, par contre, ça va aussi à l'encontre de ça. Et donc, ça gêne aussi l'adoption, en tout cas, de ces services par les adolescents, et ça les oblige à entrer dans un truc qui n'est pas non plus, en dehors de toute considération commerciale, etc., qui pour eux, en tout cas, ne leur correspond pas, et qui les oblige, en tout cas, à avoir une facette visible. Et quand c'est des enfants ou des adolescents, ça peut être très gênant d'avoir son vrai nom de famille, ses vraies photos, etc., sur un réseau social.
Je pense que avec donc ces nouvelles formes de publicité, le début des luttes contre la publicité, c'était surtout au niveau de l'affichage, de l'image, du rayonnement de l'image dans l'espace public et de la gêne que ça occasionne, dégradation du paysage, informations qu'on ne veut pas recevoir. Je pense que ce volet il va rester présent avec les réseaux sociaux actuels, mais qui évidemment va venir se greffer la question des données personnelles de manière très, très puissante sur Internet, et pas que sur Internet, comme on l'a vu avec les panneaux, les écrans publicitaires espions, là. C'est ça, en fait. Ils sont en train de faire de la publicité intelligente qui nous cible mieux, donc.
Chacun et la pub de l'autre, quoi, en gros. Ouais.
Donc voilà, je pense que tous les collectifs anti-société de surveillance et collectifs anti-pub, c'est de plus en plus la même chose.
Oui, concernant spécifiquement les données personnelles, je pense qu'il y a un point qui est extrêmement important, c'est les applications téléchargeables sur les nouveaux téléphones portables. La plupart du temps, ces logiciels-là ne sont pas des logiciels libres, ou du moins, s'ils sont libres, on ne lit pas le code. Or, la plupart du temps, ces applications qu'on télécharge, qui font tellement de choses super bien, vachement rigolotes et super intéressantes, récupèrent toutes nos données à notre insu. Absolument tout. À savoir, à commencer par, pour les téléphones qui ont un GPS, la géolocalisation, latitude, longitude, où est-ce que t'es. Donc déjà, on peut lui donner la pub éventuellement sur son environnement immédiat. Ensuite, tout un tas d'entreprises se montent, petites entreprises qui poussent comme ça, pour essayer de récupérer des données, comme par exemple le sexe de la personne. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Aussi l'orientation sexuelle, ce qui permet aussi de cibler la publicité. Ensuite, une chose assez horrible, un concept publicitaire qui ne veut rien dire, mais qui leur rapporte bien des sous, l'origine ethnique, qui fait qu'ils espèrent retirer du profit de l'appartenance ethnique ressentie par la personne, ou en donnant de la publicité ciblée là-dessus. Tout un tas de choses de ce genre-là tout un tas d'informations sont récupérées grâce à ces applications à notre insu, et malheureusement beaucoup de personnes
se focalise uniquement sur l'intérêt immédiat qu'il voit dans ses applications, à savoir un truc très marrant, un truc très rigolo, mais qui en fait n'est initialement pas conçu pour amuser, comme la télévision, mais uniquement initialement conçu pour trouver un prétexte pour la récupération des données et tirer du bénéfice à l'insu complète de la personne.
Et pour illustrer ce que tu dis, par exemple, il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui codait, qui a vu dans son iPhone qu'en fait Apple enregistrait toutes ses positions pendant tout le temps en fait. Donc en fait, il a retracé son parcours, ses voyages, et il a pu voir que dans son téléphone mobile, tout était enregistré, et que à chaque moment, et surtout dans le temps en fait, de savoir que la personne se déplace souvent d'un tel endroit à un autre, etc. Et donc, il a annoncé ça en tout cas publiquement, il a mis sur Internet en disant voilà, moi j'ai pu retracer mes parcours et ma géologue en temps réel tout le temps. Depuis plus d'un an, par exemple, il a permis de mettre en place des logiciels qui vont à l'encontre de ça, qui vont désactiver ça. Et ensuite, Apple en a tenu compte en disant, comme d'habitude, ce n'est pas une erreur, c'est une fonctionnalité supplémentaire qui peut potentiellement faire des choses très très bien et très très intéressantes. Mais en tout cas, c'est le genre de personnes aussi qui permettent de mettre en image et d'illustrer ce genre de choses, quoi.
Oui, bonjour. Je voulais essayer de savoir s'il n'y a pas des programmes de reverse engineering justement pour qui sont déjà en place pour essayer de soit de faire bugger les applis en question, c'est-à-dire de renvoyer des fausses infos, peut-être via les générateurs d'identité virtuelle, quoi, pour arriver finalement à saboter le système sans que ils puissent imaginer qu'il y a des gens qui ont téléchargé telle application.
Première chose qu'il faut faire quand on a un iPhone, par exemple, il faut le jailbreaker, c'est-à-dire le craquer en quelque sorte. Et là, on a la mainmise déjà sur le produit qu'on a acheté. Et donc, on peut paramétrer, donc dire qu'on veut ou pas être géolocalisé tout le temps. Donc déjà, on achète des téléphones sur lesquels on n'a pas la mainmise, ce qui est assez incroyable. Et donc déjà, craquer ces choses-là pour pouvoir s'y approprier, c'est une première chose. Ah bah, en fait, si vous achetez un iPhone, vous allez sur un site depuis votre téléphone mobile qui s'appelle jailbreakme.com, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Andonin. Et donc, vous allez avoir un écran et il va dire jailbreakme. Et donc, on fait ça et ça y est, c'est craqué. Donc, en fait, ce qui est super drôle, c'est que c'est très, 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 très simple. Les hackers mettent ça en place de façon de plus en plus simple pour le grand public. Et après, en général, avec une petite recherche Google, une petite recherche sur Internet, on trouve assez facilement et avec des étapes simplifiées.
Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que ça veut dire craquer un iPhone ?
Alors, craquer un iPhone, oh là là, mon Dieu.
C'est reprendre le route, quoi. Reprendre la main dessus.
En gros, quand j'achète un iPhone, je ne suis pas le maître de mon téléphone. En gros, je ne suis pas le super utilisateur de mon téléphone, je suis un utilisateur de mon téléphone. Et quand je le craque, tout à coup, j'ai la mainmise sur toutes les fonctionnalités qui sont derrière, auxquelles je n'ai pas accès. Sur toutes les choses qui sont pas permises pour un utilisateur normal comme moi, et tout à coup je deviens super utilisateur, donc tout à coup j'ai la mainmise sur l'ensemble de mon téléphone. Je peux par exemple mettre un fichier depuis mon ordinateur dessus sans passer par le logiciel propriétaire d'Apple, parce qu'Apple nous impose un logiciel. Si je mets une musique dans mon téléphone, je suis obligé de passer par un logiciel d'Apple, iTunes pour ne pas le citer, et là si je craque mon téléphone, tout à coup, je peux mettre un fichier comme je veux. Ce qui paraît, en théorie, normal, mais qui, en tout cas, Apple ne propose pas. C'est tout ça pour des questions de business derrière. De droit électronique, on ne peut pas acheter l'iPhone, etc.
Non, mais je repose la question. Est-ce que vous êtes...
Ah, sinon, on peut ne pas acheter l'iPhone. Ah, bien sûr, bien sûr.
Oui, bien sûr, il y a
ça. Ah, ou sinon, oui, bien sûr. Ça, je suis entièrement d'accord, évidemment.
Non, est-ce que vous êtes au courant du programme que j'évoquais tout à l'heure, qui sont justement des programmes à l'heure, qui vont aller justement foutre la pagaille dans les fichiers, parce que quelque part, ils auront toujours gagné, parce que, comme on dit, évidemment, moi j'ai pas d'iPhone, j'en aurai jamais, mais il y en a plein qui en ont parce qu'on leur en offre, parce qu'ils trouvent une utilité à en avoir un. L'idée, c'est qu'on jailbreaker, c'est un truc, donc reprendre la main sur ta machine, c'est évidemment la première étape, mais après, il faut... Toi qui aimes bien jouer avec les casquettes éclairantes et tout ça, peut-être passer à autre chose, quoi. Donc les vrais hackers qui savent coder, il faut y aller, quoi.
Personnellement, je ne me considère pas comme un hacker. Déjà, ouais, je tiens à préciser.
Je fais des reverse engineering.
Je ne suis pas hacker.
Même si c'est juste des casquettes et des diodes. Mais
par rapport à ce que tu dis,
je pense qu'il faut s'unir pour que les mecs ils codent pour nous proposer, à nous qui ne sommes pas du tout informaticiens,
des méthodes pour foutre le bordel dans, ces, dans les fichiers. Quoi.
Donc, c'est... donc ton idée, enfin, si je comprends bien, ce serait de, d'envoyer de fausses données, en fait. Pour saturer les données,
pour
envoyer des données
erronées. Des qui n'existent pas, qui, pour, qui ont sûr, des goûts ouais. qui n'existent pas, pour des habitudes de consommation. Des,
pour rendre obsolète
des points de géolocalisation complètement hallucinants, genre t'es en Australie et dans 3 ans, enfin, 4 ans plus tard, t'es à Paris, tu vois.
Oui, bien sûr.
Et ça foutrait le bordel innommable pour eux. Et...
Alors ça, à ma connaissance, ça n'existe pas encore. Et mais de... à ma connaissance, c'est entièrement faisable.
Parce que surtout, c'est des boîtes qui gagnent leur argent en bourse par le nombre de profils
très
validés. C'est pour ça que Schmidt, récemment, Google, a dit « Google+, les enfants, la cour, la récréation, c'est terminé. Maintenant, on veut que vous soyez vous-même. Vous n'avez pas à vous cacher. » Donc après, effectivement, il a réfléchi. « Vous savez que pour des pays en dictature, comment on va faire ?» Oui, alors, effectivement, en ce moment, on va autoriser à ce que les gens ils aient effectivement... une identité vraisemblable. Mais c'est vrai que son but, à lui, c'est de créer un système où ceux qui y sont, ce sont vraiment ceux qui déclarent qu'ils sont. Je pense aussi à la réalité augmentée. Tous les programmes à la con pour les balancer des pubs avec les QR codes, toutes ces conneries qu'on voit partout maintenant dans les affiches, c'est aussi une manière de nous habituer à consommer encore plus. Un QR code, c'est une espèce de petit carré, on dirait un code barre, mais qui, c'est en 2D. Donc, il se trouve que on prend la photo, il y a un logiciel qui interprète ce qui a marqué dessus, c'est exactement comme un code barre, sauf que c'est plus simple à lire avec un appareil un peu modique. Donc les QR codes, c'est comme une petite mosaïque, effectivement. On en voit partout dans les pubs, dans les magazines, sur les affiches, même dans les abribus, il y a, je crois que c'est JC Deco, effectivement, qui a mis en place son système avec iPhone pour avoir des soi-disant des infos en plus, alors que franchement sur l'affiche, normalement il y a toutes les infos qu'il faut. Donc logiquement, ça c'est on appelle la réalité augmentée. Le terme marketing à la con, c'est ça. Et est-ce que là aussi, je pense qu'il faudra aussi mettre en place des outils de contre-mesure pour détecter et pour faire chier tous ces trucs-là, quoi.
Il y a des gens qui détournent les codes QR déjà, les QR codes, il y a des gens qui collent par-dessus d'autres codes,
voilà.
Qui vont à l'encontre de ce qui est.
Donc il faut éviter d'imaginer qu'on.
Personne scanne les QR codes.
C'est une technique qui nécessite que la personne s'approche de l'affiche, aille prendre le truc en photo avec son téléphone et
tout. Stop.
Je veux dire, les gogos qui sont suffisamment gogos pour perdre du temps sur une affiche publicitaire, pourtant il y en a des gogos, et ben, j'en ai pas vu encore un seul dans le métro.
C'est très très peu de gens qui codent, qui scannent.
J'ai jamais vu personne s'arrêter devant une affiche pour la prendre en photo pour avoir un truc à la con. C'est-à-dire que quand tu leur imposes pas, quand tu leur mets pas tout cru dans le bec, tout cuit dans le bec, et qu'il y a avec le flingue sur la tempe pour dire alors tu la prends à propos, les gens le font pas. À mon avis, cette histoire de QR code sur la fiche, on peut le laisser, je suis persuadé que ça va mourir de sa belle mort tout seul. C'est un truc, tant que c'est pas un.
Ça fait longtemps que ça existe et ça a jamais pris d'ampleur.
Ça prendra pas, il n'y a pas besoin d'aller dans cette envoyer. Le truc imposé, oui. À mon avis, ces machins-là, je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire avec ça.
Oui, effectivement.
Oui, voilà. Artistique,
c'est ce que j'allais dire.
C'est juste pas assez facile en fait le QR code. Qu'il soit plus facile pour qu'il soit vraiment embêtant, parce que là il.
Du coup, les QR codes sont utilisés de différentes manières. Et même vous, si vous avez envie de coller un QR code quelque part, vous pouvez quoi. Vous allez sur un site, vous mettez l'information, vous appuyez sur le bouton, ça vous donne un petit graphique, vous l'imprimez, vous le collez où vous voulez, et voilà, ça fait un message codé.
Il y a des gens qui font de la poésie avec, ça fait des petites phrases, donc je prends en photo et il y a de la poésie. Il y a des gens qui font de la vidéo artistique, donc je prends en photo et tout à coup j'ai une vidéo sur mon téléphone et tout à coup j'ai des choses artistiques. Il y a des gens aussi qui font qui essayent de rappeler la mémoire de Paris, des endroits où il y a eu des révoltes, où il y a eu des choses, des gens qui sont morts, etc. Et donc on code et tout à coup on a de l'information qui est apposée sur ces villes.
Du coup, c'est pas accessible à tout le monde. Parce
bien
qu'il
sûr,
faut avoir l'appareil c'est technologique polluant et pollueur pour.
C'est accessible par exemple sur ton téléphone, ça marche.
C'est vrai.
Ouais. Désolé.
Et après, moi, j'aurais une autre. De toute façon, il est bientôt fini, tu vois. Moi, j'avais une question après sur. Peut-être on pourrait revenir, mais sur Internet. Parce que je crois qu'il existe des logiciels ou des choses pour ne plus avoir la pub qui s'affiche, comme Adblock.
Donc Adblock.
Peut-être que vous pourrez en parler. Je ne sais pas, toi, c'était encore sur le téléphone. Je te laisse sur les QR codes.
C'est une question, c'est tout bête, mais je m'imagine que quand on a un QR code, en gros, c'est une série de données et il faut que ce soit interprété par un logiciel. Et je vois que, en gros, il y a des gens qui ont l'air d'être pratiquement ennemis, des publicitaires, des poètes. Et c'est le même logiciel qui interprète, c'est ça? Et ce logiciel, c'est lequel? Qui est-ce qui l'écrit? C'est un logiciel libre. Il y a un truc sur la technique qui consiste à passer d'un code, ce fameux QR code là que je connais à peine, jusqu'à l'action qui est censée exécuter ce code. Je vois pas comment ça se passe. Voilà.
Je me permets de te répondre, on te corrigera au besoin. En fait, déjà, il y a plusieurs formats de tags en deux dimensions. Il y en a certains qui ont été propriétaires. Il y en a d'autres qui sont libres, qui posent pas. Enfin, du moins, dont l'usage est libre. Et en fait, tout ce que ça fait, ça transforme ta petite mosaïque en un message. Alors, ça peut être du texte, tout bêtement. Ça peut être une adresse internet vers laquelle tu vas être dirigé automatiquement. Ce genre de choses. Donc,
il y a des logiciels libres.
Un petit logiciel avec un algorithme.
Il y a des logiciels libres qui décryptent ça, en fait.
Un QR code, c'est une image.
En gros, c'est juste une image avec des pixels. C'est comme un code barre. C'est un code barre. Sauf que c'est plus pratique parce que si c'est écrit dans la rue http://, c'est trop long à taper, etc., avec ses petits doigts sur un téléphone. Là, je prends en photo et tout de suite, j'ai le contenu en fait. C'est là juste l'intérêt du truc. Hein.
Oui. Je me permets de reposer ma question. C'est, il y a plusieurs logiciels qui interprètent ces QR codes.
Oui.
Quand j'en ai un, j'imagine que sur mon téléphone que j'ai pas, mais que j'aurais hacké. J'ai plusieurs logiciels, le logiciel du propriétaire, le logiciel du poète, le logiciel du je sais pas qui. Comment je fais pour savoir quel logiciel je dois utiliser, ou est-ce que c'est un logiciel qui de lui-même...
Alors, au niveau des formats, comme je sais plus qui tu l'as évoqué, il y a des sortes de QR codes qui sont propriétaires, c'est-à-dire dont le format a été protégé. Et je crois que c'est Orange qui a fait ça, ou je sais plus qui.
Mais c'est pas utilisé, personne.
Et c'est pas utilisé du tout, parce que forcément, un format que tu protèges.
Utilisé par qu'une seule personne.
Voilà, donc c'est les flash code, je crois que ça s'appelle. Et c'est pas du tout utilisé. Donc, par contre, le QR code, là, oui. Alors, je sais pas exactement.
C'est libre, il me semble.
Je crois que c'est libre. Voilà, c'est. Après, il y a différents.
Il y a quelque chose qui permet de générer des codes en ligne qui s'appelle Kaiwa Reader. K-A-Y-W-A. Et justement, il y a plein de sites dans le même style qui permettent de générer ces codes.
Ouais, donc, voilà. Je pense, mais il faut vérifier. Il faut vérifier.
En fait, il y a plein de sites internet qui proposent de générer des codes QR. Il y en a des centaines de sites qui permettent de faire le même code. Donc je pense pas que ce soit propriétaire.
Donc il est très probable. Donc voilà. Alors justement, quand vous disiez que c'est les mêmes, enfin les publicitaires et les artistes utilisent les mêmes technologies, c'est vrai. La technologie est un objet. Bon, ça dépend, mais on peut en faire des choses intéressantes, on peut faire des choses moins intéressantes. Il faut pas voir la technologie uniquement comme un outil d'asservissement. Ou c'est pas trop
sans parler technologie, on a des affiches. Quoi. Une affiche, ça peut être une affiche de théâtre, une affiche artistique, une affiche de pub. Je pense que, comme tu dis, la technologie, ça n'a rien à voir là-dedans. Et les technologies qui induisent plus facilement et qui sont réappropriées plus facilement, mais c'est un outil. Et après, ça pose la question de l'outil et de ce qu'on en fait, bien sûr.
Mais justement, pour approfondir un tout petit peu cette question...
Bien sûr, c'est philosophique, après.
J'imagine tout à fait, par exemple, qu'une façon d'encoder...
Puisse être elle-même détournée. C'est-à-dire que, par exemple, ce flash code que personne n'utilise, on puisse décider que quand on a mis tel carré blanc, tel carré noir à tel endroit, c'est normalement interprété comme ça, mais qu'une façon de le détourner serait de l'interpréter autrement. Oui. Et qu'interprété par un autre logiciel, ça code carrément autre chose. Et la question, ce que je posais, c'est est-ce que, pour l'instant, est-ce qu'on a le choix du logiciel qui interprète et du format dans lequel c'est interprété.
Oui.
Oui. D'accord.
Oui. Il y a un logiciel qui s'appelle NeoReader, je crois, qui interprète tous les codes et on peut choisir le type d'interprétation.
Mais si moi j'en ai inventé un, il va pas interdire que je lui ai pas dit, je sais,
on est... Ah bah non, il ne saura pas.
Encore sur les QR codes,
c'est comme pour les codes.
On va peut-être passer... C'est bon.
Céline, moi je vais prendre le relais d'Yvan, je parle assez fort, à des moments. S'il vous plaît, n'utilisez pas le mot technologie, qui est un néologisme et qui ne veut rien dire, c'est la technique. La technologie, c'est pas... La technique, les nouvelles techniques, c'est...
Le mot technologie n'existe pas. Je vais prendre des trucs, c'est pour savoir.
La technologie, c'est un ensemble de techniques.
D'accord.
Ou alors c'est l'étude des techniques.
C'est l'étude des techniques.
Très bien.
Mais on dit souvent.
Donc on va remplacer sur l'enregistrement technique.
La technologie, c'est aussi, ça fait partie de cette langue de mots. On a un peu inventé la nouvelle technologie. Alors c'était nouveau et c'était super.
Toujours nouveau d'ailleurs.
Voilà. La technologie.
On dit toujours, ça fait 30 ans qu'on parle de nouvelle technologie, justement. On en parlera encore dans 30 ans. Très bien, très bien. Merci.
Donc, pour parler un peu de technique...
Bravo.
La question qui était posée, c'était par rapport aux logiciels qui permettent de se débarrasser de la publicité sur Internet. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, la publicité sur Internet, c'est certes des images qui nous sont imposées, mais c'est aussi la récolte des données personnelles. Donc honnêtement, si vous voulez ne pas subir les effets de la publicité sur Internet, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est possible. Mais vous allez devoir désactiver pas mal d'algorithmes, pas mal de choses. Le logiciel le plus connu et que un grand nombre d'utilisateurs, alors je ne sais pas combien de millions, mais un très grand nombre d'utilisateurs utilisent, c'est Adblock Plus. Qui est un petit logiciel que vous ajoutez à votre navigateur Firefox, Mozilla Firefox, et qui vous débarrasse des publicités, des images de la publicité sur Internet. Donc, même des vidéos. Alors maintenant, oui, parce qu'avant...
Alors ça s'écrit AD, AD et bloc, B-L-O-C-K.
D'accord, c'est un beau Firefox.
C'est une extension de Firefox, oui.
Ça ne marche qu'avec Firefox.
Alors, je crois que...
Safari, non, peut-être Chrome.
Si, ça marche avec
Safari aussi
ouais. Ouais, bah, ça
d'accord.
Il ouais, c'est aussi, ça
voilà, alors faut télécharger. Alors, il y a... de toute façon, alors ce que je vous propose, c'est que je vais faire une compilation là, de différents moyens. Je vais les publier sur semaineantipu.org, comme ça, c'est vendredi, où on fait un appel à désactiver tous la pub sur Internet. Je publierai à l'occasion de ce vendredi un tutoriel pour se débarrasser le mieux possible de... Bon bah d'accord, jeudi, voilà. Et du coup, il y a aussi Mozilla Firefox qui sont vraiment très pointus sur cette problématique des données personnelles et qui sont en train de développer des systèmes. Alors, en collaboration avec les annonceurs, que les annonceurs, pour laisser le choix en fait aux utilisateurs d'être traqués ou pas.
Il y a un mode de navigation privée sur Firefox. Si je veux me mettre en navigation privée, je clique et j'ai une navigation privée. Et je sais que mes données ne seront pas transmises aux annonceurs.
Ouais, après, ce système, il est en voie d'être complété. Tout le monde ne coopère pas forcément. Mais en tout cas, il y a cette initiative qui est faite, et je pense que s'il y avait des lois qui venaient à être adoptées, on pourrait avoir une navigation relativement sécurisée assez facilement. En fait.
Plus paisible aussi. Ouais.
Donc voilà. Après, bon, pour les petites bidouilles sur des sites particuliers, je vous mettrai des petits liens sur ce panel type. Bon,
vous avez des choses à rajouter, des questions, interventions, remarques, Khaled?
Oui, moi je reviens sur la problématique du collectif des débrouillards, en fait sur la liberté de non-réception ou de réception. C'est vrai que ce qui est intéressant dans le monde virtuel que représente la jungle ou l'océan d'Internet, les pirates peuvent toujours agir pour essayer de désamorcer un peu les navires de la marine britannique qui colonisent ce monde-là, pour faire une métaphore. ou une image, mais c'est un peu ça en fait. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est ça Internet en tout cas. Mais c'est vrai que nous, dans le cadre de la liberté de non-réception, je reviens un peu à ce que vous disiez au début, c'est que en fait, les avancées techniques, on va dire, sont utilisées par la publicité parce qu'ils savent très bien qu'il faut capter notre temps de cerveau disponible par les meilleurs moyens qui existent. Et je pense que, enfin, vous voyez sur mon t-shirt, il y a écrit OGM, non merci. Je fais le parallèle avec le monde paysan où, sur les fauchages d'OGM, ils ont très très bien réussi en France à faire en sorte qu'il n'y ait presque plus d'OGM. Et je pense que c'est, enfin, et la lutte en fait des paysans qui sont dans cette vision-là ou des citoyens qui sont là-dedans va même contre les pesticides, même, enfin, c'est pas que les OGM en fait, mais ils ont réussi à gagner la lutte sur les OGM parce que c'est quelque chose de nouveau qui n'est pas normalisé. Il fait pas encore partie du paysage. Aujourd'hui, si on va en Argentine ou aux États-Unis, les OGM sont déjà présents partout. Alors là, si quelqu'un va faucher, même en Espagne, je pense. Si quelqu'un va faucher des OGM là-bas, ça serait considéré comme un crime, comme quelque chose de très grave. Donc il y a une vision stratégique et politique à avoir là-dedans. Et je pense que nous, en tout cas anti-pub, dans le monde en tout cas réel et pas virtuel, parce que comme par exemple on a parlé des écrans ACL, c'est nécessaire, la mobilité pour aller au travail, des choses comme ça, la journée, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais nous on prend tous le métro, des choses comme ça. Et l'agression publicitaire, les nouvelles, enfin... des avancées techniques à ce niveau-là, ce que la technologie a apporté aux publicitaires, c'est du pain béni. Et nous, je pense qu'il est de notre responsabilité, en tout cas en tant qu'anti-publicitaire, sinon on aura toujours plusieurs wagons de retard sur les publicitaires, et d'essayer de désamorcer ça tout de suite d'une façon assez radicale, s'il le faut. Ne pas hésiter à y aller. Peut-être, il faudra rediscuter de la stratégie. Est-ce qu'on le fait publiquement, non, etc., etc. Mais en tout cas, c'est très, très nécessaire. Et je pense qu'on va même arriver à mobiliser pas mal de citoyens qui ne sont pas sensibilisés à cette thématique-là. On a déjà un petit peu sondé les personnes dans le métro. Et quand on en parle, il y en a plein qui sont vraiment révoltés, enfin indignés, pour dire un mot qui est à la mode, indignés par ces écrans-là. Aujourd'hui, déjà, je pense que ça commence à se normaliser petit à petit. Ça fait quoi, un an là maintenant que c'est rentré en force, et il y a vraiment un danger au niveau de la démocratie. Enfin, les gens vont, enfin, ça va être normalisé, et il y aura encore d'autres choses qui vont venir après. Mais en tout cas, nous, on doit vraiment se mobiliser contre ça. Voilà. C'est tout.
Une autre intervention? Tu dis Facebook et YouTube sont basés sur un système publicitaire. Est-ce que c'est sur le recueil de données ou
l'espace de publicité,
ou l'espace de publicité?
Du coup, comme en fait la publicité de Google et de Facebook, elle est ciblée en fonction de l'utilisateur, elle est personnalisée à l'utilisateur, les deux vont de pair. Donc c'est complètement... c'est... Et pour te donner un ordre d'idée, les résultats du chiffre d'affaires de Google, c'est 95% de la publicité. Donc concrètement, Google, leur boulot, c'est pas de donner des logiciels gratuits aux utilisateurs comme la plupart des gens croient. Le boulot de Google, c'est de développer des services qui vont permettre de récolter des données personnelles et d'afficher de la publicité, toujours plus de publicité.
Le gros problème de la pub, c'est justement que c'est pas ciblé, et donc la recherche des publicitaires, c'est de cibler le plus possible. Parce que la pub, il paye un grand panneau, mais il y a plein de gens qui passent devant et les gens ils s'en rendent pas compte parce que on ne voit que ce qu'on veut voir et ce qu'on connaît, voilà, on est sensible. Donc c'est pour ça que le but des publicitaires, c'est de cibler toujours plus et plus, d'où l'intérêt de récupérer des informations et le prix des informations qui monte, parce que c'est le futur de la publicité, c'est la publicité ciblée, comme dans le film Minority Report où en fait chaque personne est identifiée et elle a un profil où il y a une liste de publicités qui lui sont proposées. Parce que quelqu'un qui n'aime pas le golf, lui donner une publicité sur le golf, ça n'a absolument aucun intérêt. Et c'est une perte pour l'annonceur parce qu'il aura diffusé ça et ça lui coûtera de l'argent. Donc le fait de cibler, on tend toujours vers ça. Donc voilà.
Ouais, c'est une belle conclusion.
En tout cas, je vous remercie. C'est... Geoffrey et Antonin d'avoir participé au débat, et puis à tout le monde aussi. C'était très participatif, donc c'était sympa. Maintenant, je vous propose de faire une petite pause avant le débat sur... Alors, le thème est long, enfin, l'énoncé, sur loi Grenelle du paysage et fumisterie gouvernementale. Donc, c'est un état des lieux politique, voilà, sur... état des lieux politiques sur tout ce qui se passe au niveau de la législation, de la publicité, sur les magouilles, sur... je crois, hein. Donc ça, ce sera avec... ce sera avec Nicolas. Avec Nicolas, Hervé, notamment du collectif des déboulonneurs. Donc c'est juste après une petite pause où vous pouvez tous discuter, échanger des informations, etc. Donc il y a de l'eau, il y a du café... dans la commune, il y a du café et il y a aussi de la...